Alors, nous sommes dans un restaurant. Nous sommes dans un restaurant et une famille partage le repas. Les deux parents, Lee et Leslie Strobel, ce sont des gens plutôt athées. Elle est enceinte, elle attend leur deuxième enfant. Ils sont avec leur fille qui doit être allez, âgée de 10 ans. Lui, il est journaliste. Alors, je sais qu'il y a au moins un journaliste dans l'église, donc il ne se sent pas visé personnellement. En tout cas, c'est intéressant pour notre histoire. Et puis, arrivé au dessert, cette jeune fille, avec l'autorisation de ses parents, va manger un bonbon. Jusque-là, rien d'anormal. Sauf que c'est un gros bonbon et qu'elle ne va pas prendre le temps de mâcher ce bonbon. Du coup, eh ben elle s'étouffe. Elle s'étouffe et elle s'effondre. Panique, panique des parents d'abord, qui voient que leur fille s'effondre, tombe par terre. Ils se mettent auprès d'elle et qu'elle a perdu son souffle, elle ne respire plus. Tout le restaurant est en émoi. Il faut appeler les urgences. Et se lève une des personnes, une table voisine, qui est infirmière et qui va accomplir son devoir, réaliser les gestes pour dégager cette jeune fille, pour qu'elle puisse retrouver sa respiration. Alors tout le monde enfin respire. Cette scène d'un film qui sera sur les écrans le 28 février prochain pourrait passer inaperçue. Sauf que suite à cet épisode particulièrement éprouvant, alors pour les spectateurs, mais surtout pour la maman, suite à cet épisode, la maman va légitimement retrouver cette infirmière dans son hôpital, qui s'appelle l'hôpital de la Miséricorde, pour la remercier. Quoi que de plus normal que d'aller remercier celle qui a sauvé sa fille. Et puis cette infirmière lui dit, mais je vais vous faire une révélation, il n'était pas prévu que je vienne ce soir dans ce restaurant. C'est peut-être le hasard, mais plus probablement la providence qui m'a poussé avec mon mari à venir dans ce restaurant. Alors bien sûr, pour cette femme athée, la providence ne veut pas dire grand-chose. Et donc de cet échange, cette femme va dire, bah, voilà, je suis chrétienne. Je crois que parfois, le Seigneur nous met sur notre route telle ou telle personne, nous fait vivre tel ou tel événement. Et ce n'est pas seulement le fruit du hasard. Alors, je ne vous dis pas la suite. En tout cas, cette infirmière, en témoignant de sa foi, permet à cette femme de découvrir le visage du Christ. Ce qui est intéressant, ce n'est pas seulement que ça soit un film, c'est que c'est une histoire vraie. Comme dans notre évangile, où Jean-Baptiste montre Jésus à ses disciples. Voici l'agneau de Dieu. Moi, je serais à la place de Jean-Baptiste, j'aurais un peu peur de perdre mes disciples. Vous savez, c'est un peu les miens. Pourquoi je les renverrais vers Jésus? Pourtant, voilà, Jean-Baptiste, il a tout compris, plus que moi. Il est là pour montrer le Christ. Il veut les conduire vers la vérité tout entière. Et donc, dans l'évangile, les deux disciples de Jean-Baptiste vont suivre Jésus et vont demeurer auprès de lui. Un peu plus tard, nous dit l'évangéliste, André, l'un de ses deux disciples, va trouver son frère Simon. Et il lui dit, j'ai trouvé le Messie, le Christ. Et il l'emmène immédiatement à Jésus pour lui permettre, comme à lui-même, de faire cette rencontre. Et Jésus pose son regard sur Simon. Tu t'appelleras Képhas, ce qui veut dire Pierre. Il me semble que dans ces textes, nous sommes invités à méditer sur le rôle de médiateur, Jean-Baptiste, ensuite Simon. Et d'une certaine manière, dans cette histoire de la famille Strobel, cette infirmière sont des médiateurs, sortes d'intermédiaires qui permettent, par leur parole efficace, par leur foi, par leur témoignage, qui permettent la rencontre avec le Christ. Ils conduisent au Christ. Dans l'Ancien Testament, la figure de médiateur est assez floue. On peut être médiateur à temps partiel, on peut être médiateur sur plus longue période. Il y a plusieurs figures de médiateurs, ces figures d'intermédiaires entre Dieu et les hommes. Il y a des prophètes qui parlent au nom du Seigneur. Il y a des prêtres qui, par leur culte, rendent présent le Seigneur. Et puis il y a des rois qui, par leur service, manifestent le Seigneur. En tout cas, dans l'Ancien Testament, toutes ces figures multiples semblent dessiner la figure du médiateur, avec un M majuscule. C'est le sens de la première lecture. Élie va progressivement saisir que le petit Samuel n'est pas l'objet d'affabulation, mais qu'il est vraiment appelé par Dieu. Et il va jouer pleinement son rôle de médiateur la troisième fois, en disant, en invitant Samuel à répondre, « Parle, Seigneur, ton serviteur, écoute. » Et donc pour nous, il est bon de nous rappeler ce dimanche qu'il n'y a qu'un seul médiateur. Ce n'est pas moi, ce n'est pas le pape François, c'est Jésus, l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. Et cette vérité se manifeste progressivement. Déjà, Jean-Baptiste, qui fait cette transition entre l'ancienne alliance et la nouvelle alliance, eh bien manifeste l'unique médiateur, c'est Jésus. C'est pour cela qu'il le désigne, par son humanité, par sa divinité, comme nous le dirons tout à l'heure dans le Credo. Jésus permet cette réconciliation en lui de deux univers, celui du ciel et de la terre, deux univers qui ont du mal à se rejoindre, mais Jésus permet, par sa médiation, par le don de lui-même, cette connexion. Cela se préfigure, je l'ai dit, en Jean-Baptiste, puis se réalise pleinement avec les disciples. Jésus appelle des hommes à travailler avec lui, il en fait des médiateurs de sa parole, médiateurs de son Église, de ses sacrements, de sa présence. Il faudra attendre l'événement de la Pentecôte pour qu'il offre pleinement l'Esprit Saint, pour prolonger et réaliser cette médiation dans son corps qui est l'Église, avec ce très beau texte de saint Paul que nous avons entendu. Votre corps est le sanctuaire de l'Esprit Saint, et l'image du corps chez saint Paul, c'est évidemment toute l'Église, corps du Christ. Cette médiation ne vaut que parce que ces hommes sont attachés au Christ, qu'ils renvoient au Christ. Il y a toujours un danger, c'est de confondre médiateur et manipulateur. Le manipulateur, c'est le gourou, c'est celui qui se place au centre et qui va finalement dénaturer le visage du Christ, prendre la place du Christ. Je pense que c'est un vrai risque pour nous, croyants, et ça a traversé parfois aussi l'histoire de l'Église, de nous mettre au centre plutôt que de laisser Jésus au centre. Moi, je m'interroge toujours sur parfois certains prêtres qui sont omniprésents sur Internet. Faut-il avoir une page Facebook ? Faut-il être sur Twitter pour réagir à toutes les polémiques qui surgissent à chaque instant ? C'est un risque pour tout chrétien, finalement, d'en oublier la figure du Christ et de se mettre au centre. Il nous faut toujours humblement nous situer devant le Christ. Et je pense que c'est une obligation pour nous de veiller à chaque jour à prendre le temps de nous tourner vers le Christ. C'est lui l'unique médiateur. C'est lui qui nous invite ensuite à être nous-mêmes participés par notre baptême, par notre confirmation, par ce sacrement de l'Eucharistie que nous recevons aujourd'hui, à être des médiateurs, non pas de ce que je pense, de moi-même, de ma personne, mais médiateurs du Christ. Vous savez, c'est ceux qui ont fait cette expérience, notamment de donner une invitation au parcours Alpha, c'est de dire tout simplement, j'ai trouvé moi-même le Messie. et je te donne l'occasion de le rencontrer toi aussi, de rencontrer le Messie. Et pour cela, il nous faut veiller à être avec l'Église. L'Église, c'est comme un garde-fou de cette médiation. Vous savez, parfois, on peut avoir la tentation de, je pense parfois à des catéchistes ou à des responsables de tel ou tel service, de se mettre à la place du Messie et de devenir finalement opaque. Voilà, demandons cette grâce d'une vraie médiation, de manifester le Christ, d'être capable de dire aujourd'hui, dans un monde qui a perdu ses repères, moi j'ai un repère, c'est le Christ. Moi j'ai trouvé le Messie, comme dans l'Évangile. Voilà, ne soyons pas non plus récalcitrants et essayons de nous inscrire dans cette démarche de notre diocèse. Le synode nous invite à constituer des équipes. Et la première réunion, il y a 5 réunions en équipe, c'est pas très compliqué, 5 réunions. La première réunion, c'est justement précisément de se poser la question, quelle est ma relation avec Jésus? Comment j'ai pu faire cette rencontre? Comment je vis dans ma relation avec Jésus? Alors moi, ça m'étonne toujours d'entendre des gens qui disent, voilà, qui ne connaissent pas Jésus, parce que moi, j'ai toujours connu Jésus, toujours dans mon cœur. Mais voilà, mais peut-être que précisément, cette grâce que j'ai reçue, je me dois d'essayer de la partager. D'ailleurs, je remarque que quand je la partage, elle devient encore plus vivante. Alors ce film évoqué au début de mon propos est une histoire vraie. Et donc tout le film va se jouer dans la conversion de cette femme et la réaction hostile de son mari, qui, comme tout bon journaliste, ne voit la vérité que dans des faits vérifiés. Et donc ce journaliste athée va mener son enquête, d'où le titre du film « Jésus, l'enquête ». Parce que comme tout athée, pour lui, Dieu n'existe pas. Alors, je pense que vous n'êtes pas athée, sinon vous seriez resté dans votre lit ce matin. Voilà, demandons au Seigneur d'accueillir sa présence pour en être de vrais témoins, de vrais médiateurs. Amen.